when you have power, people will always try to take it from you, always.
Ah, ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit, t'as pas le d'or.
On est all to vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
On est all to vous. Go away now.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
C'est depuis toujours dans l'ADN du cinéma américain, cette faculté de regarder son histoire en face, même récente, des films frontalement politiques qui observent le fonctionnement du système et en son centre le pouvoir. C'est notre sujet ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine et welcome à toutes et à tous.
Depuis Naissance d'une nation de Griffiths en 1915 jusqu'à celui-là, Vice d'Adam McKay, un grand voyage dans la politique américaine. Et cette fois, un portrait, celui de Dick Cheney, vice-président de George W. Bush, qui a redéfini la fonction et au passage, c'est tout l'enjeu de ce film, réaffirmer le leadership des USA au Moyen-Orient. Bonjour Alain Frachon.
Bonjour.
Journaliste au Monde et correspondant aux États-Unis pendant cette période que décrit justement le film de McKay, vous nous direz à quel point de justesse Vice décrit, raconte cet épisode de la politique américaine. À vos côtés, un citoyen américain, journaliste de cinéma, correspondant du Hollywood Reporter en France. Bonjour Jordan Minzer.
Bonjour.
Vous avez vu Vice, que nous replacerons avec vous dans le paysage des films politiques américains. Enfin, les sorties de ce nouveau mercredi de cinéma, entre La Favorite aux Oscars et Une Intime Conviction, My Beautiful Boy, Kaboulywood, Un Coup de Maître, La Révolution et Catherine Deneuve, c'est parti.
What do you say? I want you to be my VP. I want you. You're my vice.
Well, George, I'm the CEO of a large company. And I have been Secretary of Defense. And I have been White House Chief of Staff. The vice presidency is a mostly symbolic job.
Uh-huh.
However, if we came to a different understanding, I can handle the more mundane jobs, overseeing bureaucracy, military, energy, and foreign policy.
Yeah, right. I like that.
Vice, Vice, d'Adam McKay, Vice pour vice-président, ce qui a été Dick Cheney de 2001 à 2009. De la gestion de la crise liée aux attentats du 11 septembre à la guerre en Irak. Avant de revenir sur cette période cruciale, Alain Frachon, le film trace le portrait de cet homme, Dick Cheney, sa jeunesse tumultueuse. C'est important pour comprendre un homme, un petit white trash du Wyoming, c'est-à-dire.
C'est-à-dire que, bon, c'est un gamin qui pense, qui n'aime pas les études, qui préfère la bière, courir les filles, les bagarres, conduire son pick-up ou sa vieille voiture. Enfin, c'est une sorte de caricature de bon gars de l'Ouest, du Wyoming, et qui n'est pas particulièrement préoccupé par son avenir, ni économique, et encore moins politique. Mmh. Ses parents sont démocrates.
Oui. Il faut dire, c'est important, le Wyoming, Jordan Minzer, c'est un état important, c'est un état de l'Ouest, comme vous le disiez, mais qui vote depuis 52 pour le parti républicain, notamment Trump, à 68,17% aux dernières élections.
Oui, et il faut dire aussi, au niveau du cinéma, le Wyoming, c'est surtout le lieu où a été tourné La Porte de Paradis de Cimino, et qui est justement un des films qui montre effectivement une lutte politique au début de l'histoire des États-Unis, au début, à fin 19e siècle.
C'est aussi un film où est situé Brokeback Mountain, c'est pas inintéressant non plus,
hein, oui.
Sur cette histoire un peu de, justement, d'Amérique profonde qui ne regarde pas, enfin, je veux dire, qui méprise l'homosexualité.
Oui, en fait, c'est horrible, mais il y a une terme pour des États comme Wyoming, qu'on dit, moi je suis New-Yorkais, et on appelle des états comme ça the flyover states. C'est quelque chose de méprisant, flyover, c'est-à-dire en fait c'est des états et on passe au-dessus dans l'avion pour aller de New York à Los Angeles.
Oui, d'accord. Alain Frachon, la première rencontre importante de la vie de Dick Cheney, c'est une femme, c'est sa future femme, c'est Lynn, c'est elle qui va l'éloigner de ses frasques.
Absolument, il est très amoureux d'elle. Elle aussi, c'est intéressant à noter, ses parents sont des démocrates. Elle ne peut pas, on est au tout début des années 50. Elle est très brillante, Elle ne peut pas avoir accès aux grandes universités parce que c'est difficile pour les filles, voire quasiment impossible à l'époque. Et elle a une solide ambition, une saine ambition, chevillée au corps, de sortir d'un milieu familial qui, en l'espèce, est un milieu assez tragique, père alcoolique, etc.
Elle est incarnée dans le film par une sacrée actrice, c'est Amy Adams. On écoute un extrait en français pour mieux comprendre.
Tu choisis où tu te tiens correctement à l'avenir. Et tu ne fais plus aucun écart. Et tu trouves le courage de devenir respectable où je fais ma valise. Il y a plus d'un garçon et quelques professeurs à l'école qui voudraient de moi.
Je t'aime, Lynn.
Alors prouve-le. Prouve-le. Je sais que je n'aurai jamais accès aux plus grandes universités et je sais que je ne serai jamais chef d'entreprise ou élue. C'est le sort des femmes dans ce monde. J'ai besoin de toi. Et pour le moment, tu n'es qu'un gros plein de pisse, de moins que rien.
Oui, Jordan, vous voulez dire quelque chose?
Oui, je vais juste ajouter que...
cette sympathique épouse.
Mais Amy Adams a joué un rôle un peu similaire dans The Master de Paul Thomas Anderson.
Exactement.
Où c'est vraiment aussi la femme...
C'est une maîtresse-femme.
Dans, voilà, la femme dans l'ombre qui va pousser Philip Seymour Hoffman, le scientologiste, à devenir un homme de pouvoir.
Alain Frachon, donc, on disait... donc, Dick Cheney, il est même viré de l'université de Yale, va obtenir... Ça, c'est, tout le film le montre dès le départ. Il va obtenir un stage à la Maison Blanche et rencontre la deuxième personne, non ?
Il obtient un stage au Congrès.
Au Congrès, pardon. Et c'est là où il va rencontrer le deuxième personnage très important de sa vie, c'est Donald Rumsfeld.
Voilà. Alors Rumsfeld, lui, est un homme de l'Illinois, lui, et très ambitieux, assez brillant. Il a été un pilote d'élite, pilote de chasse d'élite dans la Navy. Il est ingénieur aussi de formation. Il est dévoré d'ambition, politique ou autre. En l'espèce, il fait de la politique.
Il est élu républicain,
d'une vulgarité affirmée, d'un cynisme total. Il n'a strictement aucune conviction, sinon celle qu'il doit être le chef de tout le monde, ou à peu près. Et voilà quel va être le maître à penser.
Il est républicain.
Il est républicain. Il a choisi le parti républicain. Ouais.
Qu'est-ce que vous pensez de cette réplique dans le film? Vous savez, Dick Cheney lui dit « Mais quelles sont vos valeurs ?» Et il éclate de rire.
Lui n'a aucune valeur, mais le film laisse entendre que Cheney est comme son maître un cynique. Or, ce n'est pas vrai. Cheney n'est pas un cynique. Cheney est profondément républicain. Et d'ailleurs, si vous voulez, il a un bilan de législateur, puisqu'il a représenté le Wyoming à la Chambre des représentants pendant assez longtemps, et il s'en est vanté. J'ai toujours voté pour plus de dépenses militaires, pour moins d'État social. J'ai toujours voté contre l'avortement, pour la libéralisation complète des ventes d'armes, etc. Il est profondément un homme de la droite républicaine classique.
Oui, mais pourtant, au début, justement au Congrès, on lui dit « Qu'est-ce que tu vas choisir, républicain et démocrate ?» Il dit « C'est qui ce mec qui est très drôle là-bas ? Ah, il est républicain, donc je vais être dans le camp des républicains. » C'est un peu primaire sommaire, non, ou pas ?
Moi, je trouve que c'est un moment où peut-être le film caricature un peu, parce que, si vous voulez, quand on regarde la vie, malgré tout, un homme laisse passer ses convictions à un moment ou à un autre. Il n'a aucun doute là-dessus. Il appartient profondément au Parti républicain.
Il a inculqué donc à Cheney les valeurs, je veux dire, tous les codes du pouvoir. Les codes du pouvoir, il les a eus grâce à Rumsfeld, de Cheney.
Ça, c'est très important et c'est très bien raconté dans le film. Le régime politique américain est très compliqué. Nous autres Français, nous pensons que c'est un régime présidentiel comme le nôtre. Pas du tout. Le président des États-Unis a beaucoup moins de pouvoir que le président français. Le président des États-Unis doit travailler main dans la main avec le Congrès, quel que soit le parti qui a la majorité au Congrès. Et donc, si vous voulez, il y a toute une machinerie politique savante dont Dick Cheney va devenir un maître, un manipulateur absolument génial et hors pair.
Comment il arrive à cette... Parce que là, on passe vite les étapes, mais comment il arrive à cette vice-présidence proposée par Bush, dont on va écouter un extrait, d'ailleurs.
Je vous veux comme vice-président. Vous êtes la solution à mes problèmes.
PDG d'une grande entreprise. J'ai été pendant un temps secrétaire à la Défense. J'ai été chef de cabinet. La vice-présidence est la majorité du temps un poste symbolique.
Ouais. Je suis conscient que ça puisse ne pas vous faire grimper au rideau.
Cependant, la vice-présidence est également définie par le président. Et si nous parvenions à une approche différente?
Continuez. Je suis tout oui.
Je sens que vous êtes un leader énergique qui prend ses décisions plutôt à l'instinct.
C'est ça. On me le dit tout le temps.
Oui, oui. L'opposé. L'opposé de votre père. Sur ce point. Alors, je pourrais peut-être gérer les tâches les plus banales comme superviser l'appareil bureaucratique, manager les armées, l'énergie, la politique étrangère.
Je vote pour.
Jordan Minzer, c'est une scène incroyable. C'est-à-dire, deux mangeurs de burgers face à face.
Oui,
presque,
j'aime beaucoup les accents français des acteurs de doublage.
Non, mais ce qui se joue là est à peine caricaturé.
Moi, je trouve ça assez... En fait, même globalement, tout le film était un peu trop dans une caricature à la fois du monde politique et même des citoyens qui votent. Parce que, en fait, l'idée du film, d'une certaine manière, c'est que le public est assez aveuglé par les médias, par autre chose. Ils font pas vraiment attention à ce qui se passe au gouvernement. Et donc, ça laisse la possibilité à des gens comme Dick Cheney à faire passer plein de choses un peu, comme une espèce de jeu de, on dit en anglais, de smoke and mirrors, de la fumée et de miroir. En fait, on voit pas, comme un magicien, on voit pas ce qui se passe. Mais moi, j'ai pas ce souvenir-là, surtout de l'élection de Bush déjà. Moi, je me souviens que les gens manifestaient dans la rue contre son élection parce que déjà l'élection était controversée, contre la guerre en Irak aussi. Bon, c'est peut-être une minorité que j'avais vue plutôt à New York, mais je pense que les gens étaient un peu plus au courant de ce qui se passait que le film laisse entendre, en fait.
Oui, à la franchement, le président Bush est un peu dessiné, pas comme un crétin, mais pas loin.
Et voilà, il se trouve que j'ai discuté avec Adam McKay, ouais. Je lui ai dit, écoutez, j'ai trouvé le personnage de Bush caricatural. Il me dit, écoutez, moi, pas du tout, j'y tiens à mon Bush tel qu'il est. Franchement, c'était vraiment pas une vedette, c'était vraiment pas quelqu'un de très intelligent. C'est quand même quelqu'un qui connaissait bien la carte politique américaine, c'est quand même quelqu'un qui lui aussi, d'ailleurs, avait été pilote de chasse dans la réserve. Alors c'est quelqu'un qui avait eu une jeunesse qui ressemble un peu à celle de
oui.
Dick Cheney, mais en beaucoup plus riche.
Oui. Oui. Ah oui, c'est ça.
Il n'a pensé qu'à faire la bamboche, sans ouais. arrêt, pendant 10 ans. C'est ce que me disait d'ailleurs Adam McKay, il dit, ce gars-là, il a 12 ans de bamboche dans sa vie. Vous avez une parenthèse comme ça dans la vôtre
ouais.
Vous seriez là où vous êtes si pendant 12 ans vous aviez fait la bamboche. Donc c'est un fils de riche, c'est un fils de patricien, mais il est plus intelligent que ce que dit le film. Le physique, je trouve, n'est pas très ressemblant, alors que Dick Cheney est troublant de ressemblance.
Christian Bale avec beaucoup de
physique, le son de la voix, toute la démarche, etc. Et donc, non, je pense que Bush était un peu moins caricatural que ça, mais Adam McKay tient à son portrait de Bush. C'est un peu, si vous voulez, je reviens sur ce que dit Jordan à un moment, on a le sentiment, par moment, je ne dis pas tout le temps, parce que ce film, à travers un portrait, re-raconte quand même une histoire.
Bien bon, sûr,
on
oui.
peut la critiquer sur certains points, je la critiquerai sur certains points, mais... Il flirte à un moment ou deux avec une interprétation conspirationniste de l'histoire qui fait passer les électeurs américains pour des gens face à une sorte de trucage monumental. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je ne dis pas que le film flirte tout le temps avec ça, mais il y a par moment comme cela, une esquisse un peu de, voilà, c'est la conspiration des élites, des grands pétroliers et d'une classe politique corrompue. C'est pas comme ça. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu caricatural sur fond d'une histoire que j'estime magistralement re-racontée.
C'est en ça qu'il est un peu militant, le film, alors, de la part de McKay.
Oui, le film est militant, mais Mackay le dit très bien. Il me dit, écoutez, pourquoi j'ai consacré tant d'années de ma vie à raconter deux épisodes américains qui ont façonné le monde d'aujourd'hui, la crise de 2008 et la bataille et cette invasion de l'Irak qui va semer le chaos au Proche-Orient, qui va relancer le djihadisme, qui va faciliter les grands flux migratoires vers l'Europe, qui va provoquer les mouvements protestataires, etc., etc. Mackay me racontait tout ça. Il est passionné de politique, c'est un homme très conscient de la répercussion mondiale, planétaire, qu'ont eu ces deux bourdes gigantesques, l'une venue de Wall Street, l'autre venue de la Maison Blanche.
Alors la théorie, la thèse du film par rapport justement à l'invasion de l'Irak, c'est de dire qu'elle ne viendrait que de Dick Cheney et que Bush l'aurait supporté, ce qui n'est pas vraiment la réalité.
Écoutez, là aussi, j'étais en désaccord avec lui, mais il était d'accord avec mon désaccord. Je lui ai dit, écoutez, je comprends que vous ayez choisi un portrait comme véhicule de récit.
Oui.
Parce que Tina est un personnage extraordinaire et sa femme est un personnage extraordinaire. Et donc, on passe toute cette histoire à travers ces deux personnages. Et c'est une méthode de récit qui me paraît tout à fait acceptable et remarquablement menée.
Oui.
Mais, on ne peut pas laisser entendre que Tina a manipulé Bush Junior pour aller en Irak. Bush Junior, dès qu'il est élu, n'a que cette idée en tête. Il pense que son père a perdu les élections pour son deuxième mandat parce que lorsque les Américains ont mené une opération en Irak en 1991 pour chasser les troupes irakiennes qui avaient envahi le Koweït. À ce moment-là, les États-Unis ont réuni une vaste coalition internationale où il y avait la plupart du monde arabe d'ailleurs, donc c'était Bush père. Ils ont chassé les forces irakiennes du Koweït. Il y avait une résolution des Nations Unies pour justifier cela, légitimer si vous voulez, et le père Bush a dit, contrairement à ce que lui conseillaient certains, dont d'ailleurs Dick Cheney, qui était son ministre de la Défense à l'époque, « Non, je ne vais pas jusqu'à Bagdad. Non, mon mandat n'est pas de renverser Saddam Hussein. » Et son fils, lui, a toujours pensé qu'il n'était pas allé assez loin, qu'il fallait renverser Saddam Hussein, que Saddam Hussein avait un discours, au moins un discours, une rhétorique particulièrement agressive au Moyen-Orient, et que cela, et qu'il aurait mieux valu aller à Bagdad. Donc, c'est lui, il veut aller à Bagdad, au moins autant, sinon plus que Dick Cheney.
En tout cas, il se passe des choses dans les coulisses du pouvoir. On va écouter à travers cet extrait sur la formation de l'équipe et comment cette équipe veut s'introduire dans le bureau ovale. On écoute.
Le président aligne Alberto González, Karl Rove, Karen Hughes dans son équipe. Très franchement, González n'y connaît rien. Rove est un dilettante. Hughes devrait jouer remplaçante. Nous aurons donc une voie quasiment dégagée de tout obstacle vers le bureau ovale. Nous serons automatiquement en copie cachée de tous les emails que le président recevra ou enverra, et on aura aussi un libre accès à son agenda à la seconde où il sera établi ou modifié.
Nous recevrons aussi les comptes rendus quotidiens des services de renseignement avant le président. Nous serons au cœur de la courbe de décision.
Et nous, on ne fera pas semblant d'élire.
Bush approuve tout ça ?
Nous avons trouvé un terrain d'entente.
Oui, Jordan.
Je pense que dans ce film et aussi dans la case de siècle, le vrai talent d'Adam McKay, c'est justement d'une certaine manière de simplifier dans une narration assez excitante des histoires très complexes, surtout la case de siècle. Personne n'a compris vraiment ce qui se passait pendant le subprime. Mm. Il a réussi à faire ça d'une manière drôle et assez juste aussi.
Empirique, oui.
Parfois, même s'il exagère ou il rentre un peu dans la caricature, et même dans ce film-là, pour comprendre vraiment le rôle de vice-président, vraiment comment ça se passe dans le coulisses de pouvoir, je trouve qu'il a une façon à résumer et à trouver des idées un peu drôles et un peu justes pour arriver là.
Et même, il y a une scène extraordinaire pour symboliser un peu ce couple et elle qui serait un peu Lady Macbeth. C'est une scène de tous les deux au lit qui se récite du Shakespeare, mais c'est une... Bah oui, c'est incroyable cette scène.
Absolument, et c'est là où on voit effectivement le rôle de Lady Macbeth qui a joué Lynn Cheney dans la vie de son mari et qui le pousse jusqu'au bout à devenir ce qu'il est devenu à la fin.
Alain Frachon, vous avez écrit avec Daniel Vernet un livre sur les néoconservateurs, l'illusion messianique. Il ne l'était pas, Dick Cheney, mais il était entouré d'hommes qui voulaient envahir l'Irak.
Oui, les néoconservateurs, si vous voulez, d'abord c'est un mouvement très réduit qui
c'est pas un parti.
Ce n'est pas un parti, c'est une faction du Parti républicain, mais une faction intellectuelle qui n'a absolument aucun poids électoral. Simplement, ils sont dans les centres de pensée, ce qu'on appelle les instituts d'études de pensée, qui fournissent des papiers aux gouvernants ou à l'opposition, et donc qui jouent un rôle d'influence important en politique intérieure comme en politique étrangère. En politique étrangère, c'est assez facile de définir les néoconservateurs. Les néoconservateurs pensent que les États-Unis ne seront fidèles à eux-mêmes, à leur mission exceptionnelle, que s'ils exportent la démocratie jeffersonienne dans le monde entier et que cela servira à leurs intérêts, que c'est la seule manière d'avoir une paix durable, etc., etc. Dick Cheney, non. Dick Cheney se soucie fort peu d'exporter la démocratie jeffersonienne où que ce soit. C'est un nationaliste classique. Il pense que les États-Unis ont une sorte de vocation naturelle, après avoir vaincu le nazisme et puis le communisme soviétique, à exercer un leadership politique, stratégique et économique sur le monde. C'est ça sa ligne de conduite.
Vous citiez Jefferson, c'est quand même le grand héros de M. Smith au Sénat dans le film de Frank Capra, Jordan Minzer. C'est un film qui reste un peu la matrice des films de politique, le parcours d'un honnête citoyen idéaliste qui va devenir sénateur. On écoute juste ce petit extrait parce qu'il fait face à son mentor qui lui explique un peu ce que c'est que la politique.
Il y a 30 ans, j'étais comme vous un idéaliste. J'étais tout comme vous. J'ai été amené à prendre la même décision que vous avez à prendre aujourd'hui. Et je l'ai prise. J'ai accepté de transiger. Parfaitement. De façon à ce que toutes ces années, je puisse rester au Sénat afin de continuer à servir le public de mille et une honnêtes façons. Ce n'est pas la peine de se voiler la face. Est-ce que je n'ai pas bien servi notre État pendant ce temps-là? Nous avons le moins de chômeurs et les plus fortes subventions fédérales. Seulement, j'ai dû accepter les compromis. Il a fallu que je joue le jeu. Le vote des gens, on ne peut pas compter dessus. D'ailleurs, la moitié du temps, ils ne votent même pas. Ce n'est pas autrement que de tout temps, on a bâti des États et des empires. Vous ne comprenez pas ça? Voilà, Jeff. Je n'aurais fait que vous dire la vérité. C'est ainsi que sont les choses.
Voilà l'idéaliste qui perd pied.
Oui, c'est marrant d'ailleurs, parce que le personnage, c'est le senior sénateur, le sénateur qui est là depuis 30 ans, qui est joué par Claude Rains. Quand j'ai revu le film, je trouvais que c'était un peu le personnage principal du film, parce que c'est lui, en fait, qui va commencer comme quelqu'un de très cynique, qui est dans les coulisses de pouvoir depuis très longtemps, et qui va se transformer à la fin du film à quelqu'un d'un peu plus idéaliste, comme Mr. Smith, qui est plutôt quelqu'un de très naïf et qui comprend pas de tout ce qui se passe. Ce qui est intéressant de revoir ce film aujourd'hui, que, en fait, dans la présidence actuelle et la campagne de Donald Trump, il parlait de « drain the swamp ». C'était sa grande politique de dire qu'il y a trop de corruption, il y a trop de cynisme à Washington, surtout l'influence de business sur la politique, et il faut se débarrasser de tout ça. Bon, c'est pas exactement ce qu'il a fait, mais déjà dans Mr. Smith au Sénat, on voit ça. On voit déjà qu'en fait, Washington est un monde complètement corrompu, complètement influencé par les affaires, par les hommes d'affaires. Les sénateurs sont tous sous-influence. Et en fait, Mr. Smith, c'est quelqu'un qui vient comme une espèce de Donald Trump, si on veut. Mais c'est complètement le contraire. Mais quelqu'un qui vient, qui va en fait essayer naïvement de nettoyer tout ça.
Oui, j'avais jamais pensé à ce parallèle.
Mais oui, et ça, c'était il y a 80 ans, en fait. Et ça n'a pas beaucoup changé.
En fait, de l'autre côté du spectre, c'est une série qui est House of Cards et elle qui est complètement cynique, alors, Alain Frachon, de l'autre côté.
Oui, elle est cynique, mais c'est amusant qu'on parle à nouveau du swamp, le marais, parce que c'est le sujet aussi du film de Adam McKay. C'est comment fonctionne Washington.
Oui.
Alors, ce n'est peut-être pas aussi cynique qu'il le raconte, mais enfin, il raconte quand même très bien les conflits d'intérêts. Dès l'instant où il est tout à fait logique de donner de l'argent pour financer la politique, de l'argent privé, j'entends, quasiment sans contrôle depuis une récente décision de la Cour suprême, eh bien, dès cet instant-là, ou si vous voulez, où le fait de donner de l'argent est considéré comme l'expression de votre opinion politique, vous avez naturellement un congrès qui est sous influence, comme le disait Jordan, et ça, le film le raconte très bien aussi.
Dans ces grands films politiques, il y a aussi le grand rôle de la presse. On a choisi, bien sûr, un film qui fait date, ce sont Les Hommes du Président, d'Alan G. Pakula en 1976, donc l'enquête de Carl Bernstein et Bob Woodward, les deux journalistes du Washington Post, choses qui ont révélé l'affaire du Watergate, des écoutes téléphoniques secrètes mises en place par Nixon pour espionner les démocrates, relations entre presse et pouvoir. Et puis, ils ont inventé un personnage très intrigant, ces gorges profondes. On écoute un extrait.
On est là et on sèche. Nous n'avons que des bribes. De ce fait, nous n'arrivons pas à voir comment le puzzle se met en place. John Mitchell lâche la direction du comité de réélection. Il déclare qu'il veut désormais passer plus de temps en famille. Tout ça, c'est du bidon, bien sûr. On n'avale pas cette couleuvre.
Non, mais c'est touchant. Oubliez le mythe que les médias ont créé autour de la Maison Blanche. La vérité, c'est qu'on n'y trouve pas que des lumières et qu'ils ont été dépassés.
Anne est sortie de l'ombre. Il paraît que son avocat aurait touché 25 000 dollars de dessous de table pliés dans du papier kraft.
Pister l'argent.
Comment ça, pister? Et où?
Cela, je ne peux pas vous le dire.
Mais vous pourriez me le dire.
En anglais, follow the money.
Follow the money. Journal.
C'est vraiment la presse victorieuse, quoi.
Mais oui, c'est ce qui est intéressant dans ces films, c'est pareil, on montre Washington comme un marais, comme un swamp, mais heureusement, il y a des journalistes, des héros qui peuvent, en fait, essayer de sauver ça. Quand Mr. Smith arrive à sauver Washington, je trouve que dans les années 70, malgré tout ce qui s'est passé, il reste un certain idéalisme dans le cinéma, ce qu'on trouve pas forcément aujourd'hui dans un film comme Vice. En fait, il y a que du cynisme qui reste, il y a plus d'idéalisme du tout.
Vous faisiez la moue à Alain Frachon quand
oui,
on...
parce que si vous voulez, je vais vous dire, j'étais stagiaire à ABC News en 74, l'été du Watergate, quand le président Nixon, un républicain, Cheney était très proche de l'équipe de Nixon, a dû démissionner. Le Watergate, c'est trois acteurs qui réussissent. La presse, bien sûr, le pouvoir judiciaire qui ne se dégonfle pas, et le Congrès. Donc, si vous voulez, on peut critiquer la manière dont fonctionne la démocratie américaine, mais sans ces trois acteurs, il n'y a pas de Watergate. Le Congrès, les commissions du Congrès, elles ont un véritable pouvoir judiciaire. Elles vous convoquent, Christine. Vous ne pouvez pas refuser.
Oui.
Ils peuvent vous envoyer en prison. Vous ne pouvez pas faire un faux témoignage. Oui. Et donc, c'est la combinaison de ces trois acteurs qui va arriver à révéler le fait que la Maison-Blanche était complice d'un cambriolage au quartier général du Parti démocrate dans un ensemble d'immeubles qui s'appelle le Watergate à Washington. Et je trouve qu'on dit toujours c'est la presse, c'est la presse, c'est la presse, surtout en France, on adore ça. On rêverait de faire un Watergate à la française, etc. Mais écoutez, moi, je suis dans le bâtiment depuis 45 ans maintenant. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de Watergate sans l'indépendance du pouvoir judiciaire américain et sans la force du Congrès américain.
On rêverait aussi d'avoir des commissions d'enquête parlementaires aussi efficaces. Voilà.
Justement, aujourd'hui, on se trouve dans la même situation. L'idée de follow the money, c'est ce qui se passe dans l'enquête de Mueller sur la campagne de Trump et sur le lien avec la Russie. Et c'est justement l'indépendance judiciaire de Mueller et de son équipe qui laisse continuer à enquêter sur Trump, malgré tout ce que Trump essaie de faire pour empêcher cette enquête. Mmh.
Finalement, le meilleur film américain sur la politique américaine, c'est une série. On écoute ce générique mythique. À la Maison Blanche, The West Wing, grande série créée par Aaron Sorkin, 155 épisodes de 42 minutes entre 99 et 2006, la vie quotidienne exercice du pouvoir d'un président démocrate, Bartlett, et de son équipe de collaborateurs. On peut le dire à tous les deux, c'est un immense cours de sciences politiques. On peut tout comprendre sur l'Amérique quand on a regardé cette série, Alain Frachon.
Ah oui, absolument. C'est vraiment les mécanismes du pouvoir dans ce qu'ils ont de brillant, de lumineux parfois, et dans ce qu'ils peuvent avoir de plus sombre aussi. Oui.
Par exemple, en ce moment avec le shutdown, il y a des épisodes, je peux même vous le dire, où ils sont dans la saison 5, les épisodes 6 et 7, racontent exactement ça, quoi. Après, ça peut paraître ennuyeux, ce sont des hommes qui passent leur temps à marcher en parlant, Jordan.
Oui, c'est the walk and talk, comme on dit, avec des travelling, mais c'est aussi, ça c'est vraiment la technique de la mise en scène de Sorkin et de sa série. Il était très inspiré des films des années 30, de Hawks et même de Capra, ou des films où des gens parlent beaucoup.
Ouais.
Ils bougeaient pas à l'époque parce que les caméras bougeaient pas, mais c'est la même idée. Je vais juste dire que, Il faut comprendre que le West Wing à la Maison Blanche, il était diffusé entre 1999 et 2006, ça veut dire pendant plus ou moins les années Bush. Ouais. Et j'ai l'impression que la série a joué une espèce de rôle contre-pouvoir, mais alors qu'on voyait ce qui se passait avec Bush, et c'était très cynique et assez triste et assez déprimant pour une certaine partie du public, il y avait cette série qui montrait une espèce d'idéalisme, un président complètement idéal, qui était une présidente fictive, mais tout le monde aurait préféré peut-être avoir Bartlet au pouvoir que George Bush.
Et dont la fin annonce Obama avec ce candidat issu de, voilà, Santos, ouais. Sud-américain. D'ailleurs, il n'y a pas eu de film intéressant sur Obama, Jordan.
Mais non, pour l'instant, c'est assez... Mais en fait, parce qu'il n'y a pas énormément de drames qui se passent pendant la présidence d'Obama. Au moins, il y en a, mais peut-être c'est difficile de mettre en scène. Il y a eu deux films sur Obama, mais c'est sur sa jeunesse. Il y a un film qu'on appelle...
Complètement fleur bleue.
Une espèce de comédie romantique, une histoire d'amour, où c'est la première date avec Barack Obama, Michelle Obama. Et après, il y a un film sur lui pendant qu'il était à la fac. Mais on n'a pas un film sur son passage au pouvoir. Il y a des documentaires, mais pas de fiction.
Un film sur Trump, Alain Frachon, vous l'attendez ou pas?
Ah oui, j'imagine, mais j'y pensais en vous écoutant. On peut énumérer les acteurs de la vie politique américaine. On dit il y a la presse, le pouvoir judiciaire, la Cour suprême. On dit il y a le Congrès et bien sûr la présidence. Mais peut-être qu'il faut aussi ajouter le cinéma. Comme un des acteurs de la vie politique américaine, parce que cette capacité à se raconter, c'est aussi quelque chose qui compte dans la vie publique d'un pays.
Vous restez avec nous tous les deux, bien sûr. Je rappelle le titre de votre livre, L'Amérique des néoconservateurs, l'illusion messianique, écrit avec Daniel Vernet, désormais en collection Poche, c'est cela. Hein.
Tempus.
Ouais. On se retrouve après Nick Waterhouse pour les sorties. Et si on parlait des films qui sortaient, on va commencer. Je sais qu'on a beaucoup évoqué la semaine dernière, mais c'est bien de revenir dessus. Une intime conviction, le premier film d'Antoine Rimbaud. Bon, c'est si rare les bons films de procès. Et au-delà de ça, les bons films judiciaires tout court. Celui-là de plus glisse de la fiction à l'intérieur de cette histoire vraie. Et ce personnage inventé, incarné par Marina Foïs, apporte du relief aux propos. Elle, c'est elle qui nous, interroge dans cette passionnante énigme. Ici, le doute se démontre, se prouve contre la rumeur et face à Marina Foïs, un très grand gourmet en Dupont-Moretti, filmé dans un rythme haletant grâce à un montage au cordeau. C'est un sacré premier film, une intime conviction.
On vous le recommande chaudement.
Oui, Nuestro Tiempo, pardon, le retour du cinéaste mexicain Carlos Regadas, 3 heures de film. La campagne mexicaine, une famille élève des taureaux de combat, Esther est en charge de la gestion du ranch, tandis que son mari, Juan Poète, s'occupe des bêtes. Lorsqu'Esther s'éprend du dresseur de chevaux, Juan se révèle alors incapable de rester fidèle à ses convictions. Avant la narration classique, 45 minutes de récit tactile, dit Regadas, pour ressentir le vent, les animaux, la campagne, la langue, et percevoir physiquement ce qui va suivre, le délitement d'un couple.
Ben oui, depuis Rapone 2003, le film Rapone, le grand Rapone, avec aussi Bataille dans le ciel un petit peu après, Carlos Regadas, c'est quand même l'un des très grands cinéastes actuels. J'ajouterais mexicain parce que, comme tous les grands cinéastes, il chante dans son arbre généalogique, dans cette Amérique latine qu'il décrit si bien, avec notamment ici la présence de taureaux. Et croyez-moi, les taureaux jouent un rôle énorme dans cette hacienda. Le Mexique est un pays de tauromachie, donc ce sont des taureaux de combat, c'est tout sauf des petits animaux sages, ce sont vraiment des lutteurs, ils s'entretuent, et évidemment la métaphore est là, avec le couple à côté qui est en train de largement se déliter. Cette attention à la nature et aux êtres humains en même temps est extraordinaire. Il y a des plans, il y a des séquences qui sont véritablement du cinéma. Cette arrivée d'un avion sur la ville de Mexico de nuit, filmée du train d'atterrissage, je ne m'en suis toujours pas remis.
La favorite, très favorite aux Oscars, dit nomination de Yorgos Lanthimos. Début du XVIIIe siècle, l'Angleterre et la France sont en guerre. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône, tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu'une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu'elle pourrait être une alliée. Mais Abigail y voit l'opportunité de renouer avec ses racines aristocratiques et parvient à gagner la confiance de la reine. Cruauté et jeu de pouvoir au féminin, c'est le grand talent du film de raconter cette histoire-là au féminin, mais dans une mise en scène très voyante, avec au sommet quand même 3 grandes actrices, Olivia Colman, Rachel Weisz et Emma Stone, Laurent.
Ben, si l'idée pour Lanthimos c'était d'aller aux Oscars, l'idée est réussie.
Ah, c'est un passeport là,
voilà,
pour
Hollywood. Absolument, ouais. Là c'est carton plein. Après, si l'idée c'était de faire un grand film historique, c'est moins intéressant de ce point de vue-là, parce que effectivement c'est quand même très très lourd tout ça. En plus, avec cette idée que on va faire un film sur un personnage historique en lui attribuant une homosexualité dont les historiens doutent réellement de la profondeur. Alors franchement, est-ce que ça vaut le coup de faire 2 heures sur un personnage dont finalement on dit autre chose que ce qu'il était réellement? J'ai l'impression que c'est un film, d'ailleurs Lanthimos le dit, c'est un film très MeToo. Alors là aussi, est-ce qu'il faut attribuer au 18e siècle des débats que nous avons au 21e? Je n'en suis pas certain.
Rendez-nous Canine de Yorgos Lanthimos et cet esprit tellement absurde et bon, bref. Tout ce qu'il me reste de la Révolution, ça c'est un film français de Judith Davis. Elle incarne Angèle, qui se bat contre la malédiction de sa génération. Être née trop tard à l'heure de la déprime politique mondiale. Elle vient d'une famille de militants. Son père, lui, est resté maoïste et elle reste fidèle. Il reste fidèle à ses idéaux. Donc Angèle veut suivre cette piste et en même temps ne pas tomber amoureuse.
Oui, écoutez, c'est un film sympathique, voilà, on va dire ça pour ne pas se fâcher avec ceux et celles, nombreux certainement, qui sont toujours attentifs à remettre du 68 dans notre 2018. Pourquoi pas? Ça se fait avec effectivement beaucoup d'allant, beaucoup d'entrain, c'est d'après une pièce de théâtre, un travail théâtral dessus, ça se sent parfois d'ailleurs un peu trop sur le bavardage. Il y a quelques naïvetés comme cette façon d'évoquer le Parti communiste ou les communistes d'antan avec en mettant en fond sonore de la musique des chœurs de l'armée rouge. C'est pas très raisonnable tout ça. Franchement, on peut faire un peu plus subtil, un peu plus actuel aussi. Et puis cette façon de conclure le film sur une incroyable réconciliation familiale où les personnages de père, de mère, de sœur, de frère, de beau-frère sont absolument caricaturaux, sauf qu'ils nous donnent la possibilité à rare de retrouver Mireille Perrier. Et ça, on adore. Ça s'appelle Tout ce qu'il nous reste de la Révolution.
Le reste de la Révolution. Un coup de maître de Gaston Duprat. On avait beaucoup aimé son précédent film qui s'appelait Citoyen d'honneur. Vous avez sur ce prix Nobel de littérature qui revenait dans son village. Cette fois, c'est l'histoire d'Arturo, le propriétaire d'une galerie d'art à Buenos Aires, un homme charmant, sophistiqué mais sans scrupules, qui représente Renzo, un peintre loufoque en butte avec le monde de l'art, un radical et torturé, qui traverse une grosse baisse de régime. Leur relation est faite d'amour et de haine. Un jour, Renzo est victime d'un accident et perd la mémoire. Profitant de cette situation, Arturo, son agent, élabore un plan osé pour les faire revenir sur le devant de la scène. En même temps qu'une comédie noire, l'élaboration de l'arnaque, un coup de maître est une satire du monde de l'art, maligne et caustique sur l'imposture de ce milieu. Et au-delà du polar et de la comédie, un vrai buddy movie, comme disent les Américains. C'est-à-dire une grande histoire d'amitié entre ces deux hommes qui injectent de l'émotion au bon moment et tenu par deux immenses acteurs, Guillermo Francella et Luis Brandoni. Ça s'appelle Un coup de maître. C'est assez jouissif comme film. My Beautiful Boy. Alors lui, il a été un petit peu écarté des Oscars, bizarrement, de Félix von Groningen avec le jeune Timothée Chalamet. Il incarne un garçon de 18 ans qui est promis à une prestigieuse carrière universitaire, mais le monde de son père s'écroule quand il s'aperçoit que son fils est devenu accro à la drogue.
Bah, écarté bizarrement, je sais pas, c'est un mauvais film, alors c'est peut-être normal qu'il ait été écarté. Après tout, parfois, il se trompe pas toujours. Cette académie, c'est d'un lourd, c'est d'un larmoyant achevé sur un sujet qu'on a vu 25 fois, mais après tout, peu importe. L'important, c'est la façon, effectivement, de le faire, ce sujet. C'est bourré de flashbacks d'une lourdeur abominable, c'est inintéressant au possible. Bref, on est plutôt content que ça ne soit pas aux Oscars.
Attends, on avait aimé Alabama Monroe de Félix von Groningen.
Pas mais tous. Bon.
La dernière folie de Claire Darling, de Julie Bertuccelli. Dans un petit village de l'Oise, c'est le premier jour de l'été et Claire Darling se réveille, c'est de neuf, persuadée de vivre son dernier jour. Elle décide alors de vider sa maison et brade tout sans distinction. Les objets tant aimés se font l'écho de sa vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait revenir Marie, sa fille, qu'elle n'a pas vue depuis 20 ans, laquelle fille est incarnée par la vraie fille de Deneuve, Chiara Mastroianni. L'histoire est adaptée d'un roman américain. Le film est construit en flashback où se croisent les fantômes du passé, un beau sujet et une grande de neuve, et sinon...
Ben, moi, je n'ai cessé pendant le film, mais vraiment, de penser à un film fantôme derrière ce film-là, qui est le chef-d'œuvre, l'un des chefs-d'œuvre de Pierre Salvadori, qui s'appelle Dans la cour, où Catherine Deneuve jouait également une femme mûre qui pète un peu les plombs, il faut le dire, qui part un peu à la dérive, comme ça. Alors, chez Salvadori, elle voyait des fissures dans le mur. Là, elle brade son patrimoine, d'ailleurs, qui est fait de 250 verres, assiettes, enfin, c'est incroyable, un capharnaüm dans cette maison qui est sidérant. Tout ça est fondé sur des flashback très très mal joué, il faut quand même bien le dire. Et justement, on en vient à ce qui fait à la fois toute la limite du film, parce que cette distribution là est inintéressante, et puis le poids, le prix que fait Catherine Deneuve, c'est-à-dire que quand elle est là, il y a toujours quand même quelque chose qui se passe, parce qu'on filme Catherine Deneuve, comme savait très bien le faire Pierre Salvadori, ou bien encore Emmanuel Berco, mais ça ne suffit pas, hélas, à faire de ce film-là un vrai film, La dernière folie de Claire Darling.
J'espère qu'on va finir par un film qu'on aime, c'est Kaboulywood, Laurent, de Louis Meunier. À Kaboul, en Afghanistan, quatre étudiants assoiffés de vie décident d'accomplir un projet audacieux, rénover un cinéma abandonné qui a miraculeusement survécu à 30 ans de guerre. Comme un acte de résistance contre le fondamentalisme des talibans, ils vont aller au bout de leurs rêves pour la liberté, la culture. Le cinéma, c'était pas un doc, c'est une fiction.
Oui, alors ça...
Moitié-moitié.
Oui, c'est-à-dire que ce qui est pas très intéressant, c'est la fiction, parce qu'elle est un peu comme ça, faite de briquet de broc. Mais ce qui est très, très, très intéressant, c'est la partie, effectivement, documentaire. Le tournage a été attaqué par les talibans, hein, parce que c'est un pays où, décidément, le cinéma n'a pas de raison d'être. Vous disiez, Alain Frachon, combien le cinéma était important aux États-Unis. Là, pour les talibans, c'est entièrement contre. Donc ça fait tout le poids, le prix et l'intérêt de ce film, c'est de montrer comment est-ce que, malgré tout, on essaye de faire vivre du cinéma dans un pays qui n'en veut pas.
Vous vous souvenez de ce film de Bertrand Blier, Préparez vos mouchoirs, en 1977, avec Depardieu, Devers, Carole Laure et le tout jeune Riton Liebmann. Extrait.
Qu'est-ce qui t'amuse, toi ?
Plein de trucs, les mathématiques, la macrophotographie, l'astrologie, les langues.
T'es une grosse tête, là.
Coefficient intellectuel 158.
C'est beaucoup ?
Énorme, très largement au-dessus de la moyenne.
Si je comprends bien, tu te prends pas exactement pour de la merde, alors.
Non, mais la question n'est pas là, c'est scientifique, il y a des tests. Bon, mais de toute façon, soyez pas jaloux, hein, parce que l'intelligence fait pas le bonheur, la preuve.
C'est très drôle, Alain Frachon. Et 40 ans plus tard, revoici Riton Liebman sur scène pour raconter cette folle aventure, celle de ce petit garçon belge de 13 ans qui, après ce film, débarque à Paris à 15 ans pour tenter sa chance. Les rôles, les rencontres, les bonnes, les mauvaises avec les stars, la chute et la renaissance. Il le raconte tout ça sans pathos, sans nostalgie, mais avec humour, vraiment dérision et énergie. C'est drôle et c'est très émouvant. Et c'est au théâtre du Petit Saint-Martin en ce moment à Paris. Ça s'appelle La vedette du quartier avec Riton Liebman. Sinon, on parle de la mort, la disparition d'un grand acteur britannique, c'est Albert Finney. Immense acteur révélé par la nouvelle vague anglaise des années 60. Certes, très connu pour Hercule Poirot, Erin Brockovich ou même Skyfall. Mais surtout, immense interprète des films mémorables comme Au-dessous du volcan, Miller's Crossing, des frères Cohen et son grand rôle de père dans le dernier film de Sidney Lumet, 7h58, ce samedi-là.
Tout le monde opine sur le plateau.
Oui, on va maintenant offrir un cadeau à nos deux invités.
Mais,
et
oui,
on a tout le temps du monde.
Et autant de préconisations à nos auditeurs, bien évidemment. Le premier cadeau pour vous, Alain Frachon, c'est un film de Francesco Rosi, 1976. Ça s'appelle Cadavre exquis. C'est un film politique, avec Lino Ventura exceptionnel, mais il y a aussi Alain Cuny, il y a aussi Charles Vanel, il y a aussi Marcel Bozzuffi. Tout ça donne un portrait de l'Italie qui était au moment du choix, c'est-à-dire est-ce qu'on fait de la stratégie de la tension ou est-ce qu'on fait du compromis historique. Voilà tout ce que le film de Rosi dit, montre avec une alacrité et surtout un brio incroyable. C'est d'après un livre de Leonardo Ciaccia.
Merci mille fois.
C'est chez ESC, je ne sais pas si je l'ai dit. Pour
vous l'aviez vu ou pas?
Je l'ai vu, mais je suis ravi de l'avoir. Je l'ai vu, mais il y a très longtemps.
Ouais, voilà,
quand il est sorti, il y a très longtemps.
Ça se revoit.
Et ça se revoit d'autant plus qu'on connaît la situation politique de l'Italie en ce moment.
Absolument, tout à fait. Et pour vous, Jordan Minzer, un de vos compatriotes, Monsieur John Cassavetes, Sophie Solini vient de publier un très joli livre. Subjectif, c'est une belle vision qu'elle a de ce grand monsieur du cinéma, à la fois indépendant du cinéma d'improvisation. Je crois que il n'y a que Cassavetes au monde, c'est-à-dire c'est un cinéaste absolument singulier qui aura marqué le cinéma américain et mondial de sa patte. Je pense que vous en conviendrez. Le livre est chez Séguier et il est tout à fait recommandable. On vous l'offre avec grand plaisir. Merci. On le recommande à nos auditeurs.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci vraiment. On vient de parler de ce film d'Adam McKay, Vice, qui sort mercredi prochain. Merci Alain Frachon, merci Jordan Minzer. On vous laisse quelques génériques en VF et en VO, s'il vous plaît.
This program was inspired by cinema.
Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
It was filmed in sound. It's radio.
Sporto Cantes a écrit la musique du générique.
The songs were chosen by Muriel Perez.
Hugo Combes s'est occupé de la préparation.
Céline Hila directed it.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Alain Frachon, j'y étais.
And I, Jordan Minzer, was there.
Merci à Juliette Delperou d'avoir été aux manettes avec Johanna Gabric. Dans quelques instants, vous serez sur les épaules de Darwin, mais pour l'instant, il est 11h passées sur Inter.